Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Arnaud Carré, qui dirige la service line Brand Health, Tracking et Healthcare de chez Ipsos, l'entreprise française de sondage et également Société internationale de marketing d'opinion. Ensemble, on discute du marketing réaliste qu'Arnaud a popularisé à travers une tribune dans le magazine Stratégie. Il partage dans cet épisode du podcast les dessous de cette nouvelle approche du marketing qui révèle une profonde évolution dans les modes de consommation et une nécessité forte pour les marques de se réinventer. Bonne écoute ! Bonjour Arnaud !
Bonjour !
Bienvenue dans The Storyline !
Merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir, ravi de faire connaissance un peu plus en détail et de pouvoir te présenter aux auditrices et aux auditeurs, surtout qu'aujourd'hui on aborde un sujet extrêmement passionnant, le marketing réaliste, que tu as, je ne sais pas si tu l'as conceptualisé, mais en tout cas que tu as contribué à populariser en France. Donc, mais peut-être avant de parler de ce sujet-là, on peut faire un petit encart et parler de toi, ton parcours et de tout ce qui t'a amené jusqu'à Ipsos.
Oui, ben avec plaisir. Alors, c'est pas un parcours trépidant, mais je veux bien en parler. Alors, j'ai commencé dans les études, donc c'était une... On peut parler de vocation, c'est assez rare dans ce milieu, mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps. Mmh. Voilà, mes frères et sœurs avaient choisi de la sociologie, étaient en université, il fallait que je me différencie, et j'aimais la sociologie. Donc, le compromis que j'ai trouvé à l'époque, et c'est ce qui a défini ma voie par la suite, ça a été de faire de la sociologie en entreprise ou des entreprises, et j'ai tout de suite été assez passionné par tout ce qui était études de marché, d'opinion, et puis plus récemment des marques, qui sont un sujet passionnant, surtout en ce moment. Voilà, donc j'ai commencé dans une petite agence qui s'appelait Sofres, qui est maintenant rachetée par Kantar. Ensuite, j'ai été dans un groupe allemand, chez Henkel, où j'ai fait un peu mes gammes sur toutes le type d'études, Cali, Quanti, pour des marques passionnantes comme Scorpio, Diadermine, Fa, Minidou, Rupson, voilà. Donc, c'était des belles marques françaises.
En effet, le parfum Scorpio, au final, ça me ramène à l'époque du collège.
C'est ça, le plus brûlant des parfums d'hommes. et donc, ensuite, ça m'a amené assez naturellement chez Ipsos. Ouais. Où j'ai commencé en Suisse, à Genève. J'ai travaillé beaucoup pour tout ce qui était luxe, pharmaceutique, et Nestlé, d'ailleurs, qui était un grand groupe présent là-bas. Avant de revenir en France, il y a à peu près 5-6 ans maintenant, où j'ai repris donc, la direction de l'expertise des marques, voilà, pour Ipsos en France. Donc, qui est une des plus grosses expertises de l'Institut Ipsos. Voilà, donc on suit les marques pour tout ce qui est tracking, donc dans le temps on fait des suivis de performance, mais c'est tout le sujet que je vais peut-être avoir la chance de développer aujourd'hui. C'est plus uniquement du monitoring, mais c'est vraiment des outils, des systèmes qu'on met en place pour nourrir la réflexion, l'intuition du marketing. C'est une révolution qui est assez récente, hein, qui a 5 ans à peu près.
Ok, d'accord. Et elle a été causée par quoi? Juste par curiosité
Mais par le marketing réaliste, justement. entre autres. Voilà, entre autres. Entre autres. Oui, bon, j'imagine l'occasion de le développer. Mais effectivement, c'est dans les besoins des marques et donc de la fonction marketing que la nature des études a changé. Alors, il y a une base qui demeure et qui reste, qui est toujours essentielle, mais les études ont été complétées, en tout cas dans leurs objectifs, dans leurs fonctions. Voilà, elles doivent plus non seulement monitorer ou assurer ou suivre un plan stratégique voulu par du marketing, mais elle doit avoir cette vocation d'infuser, d'apporter, d'éveiller l'intuition, de donner des éléments très concrets, très réalistes, du quotidien, des consommateurs, des citoyens, pour justement permettre au marketing de constamment changer d'avis. Voilà, c'est ce qui ne se faisait pas à l'époque. On changeait peu d'avis. Aujourd'hui, le marketing se doit de changer d'avis. Voilà.
Complètement. On va y revenir, mais du coup, on peut revenir à cette notion de marketing réaliste, justement. Tu as signé une tribune... c'était dans Stratégie, hein, je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Dans Stratégie, d'accord, très bien. Première bêtise évitée. Sur donc, le sujet du marketing réaliste, qui était assez interpellante et que moi j'ai trouvé assez passionnante. Est-ce que tu peux, pour les auditrices et les auditeurs qui ne l'auraient pas lu, pas encore, revenir rapidement sur cette notion, ce concept et ce qu'il implique?
Oui. Alors, peut-être avant de parler du marketing réaliste, parce que le marketing réaliste, c'est ce qui suit... Les marques,
voilà.
Oui. On peut peut-être parler des marques un petit peu. Alors, les marques, c'est intéressant parce que moi, quand j'étais sur les bancs de l'école de commerce, quand on apprenait le marketing il y a plus de 20 ans, il y avait un livre qui était assez populaire à l'époque et dont l'auteur avait d'ailleurs un nom qui ressemblait fortement au tien, qui était Naomi Klein. Je ne sais pas si tu...
Non, malheureusement, nous ne sommes pas related.
D'accord. Elle a écrit un livre qui s'appelait No Logo et dans les cours marketing, on nous disait que les marques, peut-être, très bientôt, allaient disparaître. Mm-hmm. À jamais. Voilà. Pourquoi? Oui, alors on les taxait d'être intrusives, d'être un peu manipulatrices, on les taxait surtout d'être liberticides. En gros, par trop de marques, trop de présence, le consommateur allait se rebiffer et finalement s'affranchir du besoin des marques. Et donc, on promettait qu'elles allaient disparaître. Ce qui est drôle, c'est qu'en 20 ans, il s'est exactement passé le contraire. Les marques, dans leur valorisation boursière, le capital de marque n'a cessé d'augmenter.
Oui.
Et c'est un des assets les plus importants d'une entreprise pour représenter ses produits et même faire vendre ses produits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette prédiction, en fait, se soit assez mal passée?
Oui.
La marque... déjà à la même fonction, qui demeure toujours et encore plus importante, qui est de marquer tout simplement un produit. Donc de signifier par un logo, un texte, du son, l'appartenance d'un produit à un groupe, à une entreprise, et donc de lui assigner des valeurs, des bénéfices. Et donc ça cette fonction, elle a pas pu disparaître, bien au contraire, puisque le nombre de produits, les choix auxquels était confronté le consommateur n'a cessé de grandir. Il a eu besoin de plus que jamais de repères vis-à-vis des produits extérieurs ou par rapport aux canaux de distribution, puisqu'on est passé sur du multicanal et avec du digital
au mini-canal,
et avec la possibilité de choisir des produits immédiatement de toutes sortes. Donc, on n'a eu plus jamais besoin de cette marque pour ce qu'on appelait la guerre de l'attention, pour pouvoir être choisi. Mais il ne s'est pas passé que ça. Il s'est aussi passé un consommateur qui est devenu aussi beaucoup plus complexe, beaucoup plus réfléchi, qui se posait des questions qui ne se posait absolument pas avant. C'est tout le principe de ce qu'on appelle le mindless, mindful. Donc, il a toujours un côté très automatique de choix. Il doit faire ses courses dans un laps de temps qui ne s'est pas allongé, il s'est même réduit. Donc, il doit aller vite. Mais par ailleurs, il se pose des questions. D'où vient mon produit? Quel est le sens de mon achat? Quel est le respect environnemental? Quelles sont les valeurs derrière la marque? Donc, toute cette réflexion, plus que jamais, a appelé à ce qu'on lui simplifie la vie, justement, par la présence de marques. Les marques, elles, se sont de plus en plus aussi positionnées et alimentées ce discours, justement, du mindful, du bénéfice derrière, au-delà juste de cette guerre
du produit,
de l'attention. Ouais,
oui,
absolument. Donc voilà, quelques effets sur la marque. On a évolué derrière, dans ceux qui travaillaient pour les marques, donc la fonction marketing, on a évolué vers un marketing beaucoup plus réaliste, pour s'adapter justement à cette réalité. Alors, De quoi on parle quand on veut dire réaliste? Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Le mot ne m'appartient pas. C'est un mot qui est dans le dictionnaire français, donc il a rien d'exceptionnel, mais il a cet intérêt de vouloir signifier plusieurs choses, je trouve, qu'on retrouve quand même dans la fonction marketing aujourd'hui. La première chose, c'est le vrai. Le côté, on ne vend plus du rêve, on vend du vrai. Et là, c'est plus que jamais d'actualité, parce qu'on est en train de voir tous les courants MeToo du washing et du greenwashing notamment, où on s'est dit que ce n'est plus possible, il faut parler vrai, il faut être dans le vrai, il faut être dans l'action, il faut être dans le concret. Donc, dans ce côté réaliste, il y a vraiment cette idée du vrai.
Oui.
Il y a aussi cette idée d'être dans la réalité du consommateur. Et ça, c'est assez nouveau comme paradigme, puisque il y a 20 ans, on était plus à vouloir créer une nouvelle réalité pour un consommateur. Pas lui imposer, mais en tout cas l'influencer ou façonner une façon de vivre, d'utiliser le produit. Aujourd'hui, on est dans un marketing très différent. On est plutôt à s'adapter sur un produit qui a été approprié par des consommateurs qu'on n'a pas forcément identifiés avant. Les cibles aujourd'hui s'ouvrent, on parle de plus en plus d'inclusion. Donc on prétend que n'importe quelle cible, qu'elle soit de tout âge, de toute même provenance ou origine, on peut voir des pays utiliser des produits, alors même qu'on n'a pas forcément envie de les distribuer là-bas, ça c'est par rapport à l'accès digital, et donc on ne présuppose plus forcément de tout ça, mais on l'observe, on le constate, et on est du coup dans un marketing qui va s'inscrire dans une réalité déjà présente, et on va s'adapter à une réalité du consommateur, plutôt que de devoir la créer. Alors, par exemple, on travaille beaucoup avec Ipsos pour les alcooliers et de luxe, parfois. Quand on vend une bouteille de champagne à 500€ avec des codes très luxe, mais on s'aperçoit assez rapidement qu'en regardant les réseaux sociaux, en comprenant les usages, on voit que le produit est principalement consommé par des jeunes de 25 à 30 ans en boîte de nuit, sans verre, directement à la bouteille. On est assez loin de
l'imaginaire.
Voilà, le luxe, initial. Avec des petites coupes de champagne, un apéritif ou une réception ou quelque chose. Voilà. Donc, on est dans une réalité du consommateur et l'idée, c'est de ne pas s'opposer à cette réalité ou de vouloir la changer. C'est au contraire de la comprendre, de la connaître et d'être encore plus confiant sur les valeurs et le système d'appropriation que les consommateurs vont avoir des valeurs de la marque. Le troisième élément dans marketing réaliste, c'est cette idée d'être aussi réaliste dans ses ambitions, c'est-à-dire de plus avoir cette espèce de promesse prométhéenne de vouloir changer le monde ou de vouloir par le marketing ou en tout cas des promesses aussi projeter trop loin l'idée de sauver la planète ou de se dire que en plantant des arbres en Amazonie, on va résoudre le problème environnemental. Aujourd'hui, on est revenu dans un marketing beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire beaucoup plus raisonnable dans ce qu'il promet et dans ce qu'il fait. Voilà, donc l'idée du vrai, l'idée de la réalité du conso, l'idée du raisonnable, qui fait que le marketing aujourd'hui prend part au quotidien des consommateurs, plutôt que d'imaginer en fait un monde rêvé, imaginaire, au futur, en tout cas qu'on va façonner. Voilà.
Oui, ouais, c'est vrai que je me souviens quand on discutait initialement, j'avais tout de suite tilté sur l'univers de la parfumerie.
Oui.
Et je me souvenais de toutes ces pubs qu'on voyait, enfin le J'adore de Dior avec Charlize Theron qui est incroyable, magnifique, qui sort d'une piscine d'or, tout d'or vêtu, bien sûr, classique. Moi aussi, hein, tous les vendredis, je fais ça. C'est mon petit rituel du vendredi. Ou bien Marc Jacobs, Daisy, allait courir dans des champs de marguerites. Enfin, c'était un petit peu des imaginaires finalement et des réalités alternatives qui marchent plus autant qu'aujourd'hui. Enfin, et je me demandais comment est-ce que l'univers du luxe, qui est quand même un univers qui crée beaucoup de valeurs perçues, justement en imaginant des futurs, des imaginaires très désirables mais qui ne sont pas forcément correspondants à la réalité, réussit à s'adapter à ce tournant vers le réalisme qui, en effet, est assez nécessaire aujourd'hui vu les attentes des consommateurs.
Oui, tout à fait. Alors, le luxe est toujours un peu en avance ou en retard, je ne sais pas. En tout cas, il est dans une autre dimension de temps que d'autres catégories de produits. Et il a une situation qui est un peu différente des autres. Mais on retrouve quand même de ça. Donc il a toujours vocation, le luxe, à inspirer, à donner et à livrer, on va dire, un maximum de valeur appropriable. Donc c'est un peu le même principe que les autres marques, mais là dans une dimension augmentée, c'est-à-dire qu'on va avoir une proposition de valeur encore plus forte. Mais on reste, et c'est là que le luxe change aussi dans ses codes, dans un système d'appropriation au niveau des usages, notamment. On n'impose plus une façon de consommer. On est beaucoup plus dans l'observation, dans la mise à disposition d'un produit, mais dans l'acceptation d'un usage, d'une façon de porter, ou même dans un contraste. On accepte, et le luxe accepte de plus en plus, qu'un consommateur puisse consommer quelque chose de très luxueux, de très cher, avec quelque chose d'absolument cheap et accessible, dans un environnement cheap et accessible. Ce qui n'était pas le cas dans le code luxe, dans Charlize Theron, que tu décris à l'instant, où il y avait carrément l'or partout et l'univers luxe partout. Là, aujourd'hui, on remet toujours dans un contexte, et on le voit partout, hein, dans toutes les marques, avec les clients avec qui on travaille, on le remet dans un contexte très, très réel. Hein. Alors, le produit reste avec la même capacité aspirationnelle, d'inspiration, de valeur, mais dans un contexte absolument réaliste, d'un consommateur qui va briser les codes, qui va mixer, encore une fois, des usages luxueux et moins luxueux. Voilà, qui correspond à une réalité.
Moi, j'avais en tête, c'est vrai que ça me fait penser à LVMH, notamment, je crois que c'est eux, hein, qui sont vachement rapprochés de l'univers du gaming et qui avaient carrément fait le design de la coupe de League of Legends, si je dis pas de bêtises, sur une année précise, et fait le design de la coupe digitalisée, je crois.
Absolument. Alors, ils sont tous très avant-gardistes dans le métaverse, notamment. Ils sont et ils s'approprient ces codes, qui est une réalité quand même très 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 réelle. Hein. C'est la réalité, en tout cas, des jeunes. Et ça, ils l'ont compris, et ils sont tous justement déjà dans cette réalité virtuelle.
Ok. Et pour revenir à la réalité plus physique, tu me disais que donc, du coup, ça passe aussi par se rapprocher du quotidien des consommateurs. Je crois qu'on avait parlé d'exemples de marques qui s'étaient carrément engagées, en fait, qui poussaient le réalisme dans le marketing jusqu'à endosser des causes ou des nouvelles valeurs par le biais d'actions.
Bah, absolument. Alors, elles vont et je vais citer quelques exemples, mais dans cette prise du quotidien, dans cette présence dans le quotidien des consommateurs, on va retrouver beaucoup de petites actions, mais des petites actions réelles, des petites actions proches du conso. Enfin, des choses, on est quasiment dans de la politique locale parfois, hein. Je vais citer quelques exemples, mais c'est des choses qui sont vraiment assez proches des gens, qui contribuent un peu à l'ordre social, un peu comme de la politique réelle, où on voit des marques, par exemple, on a vu L'Oréal prendre part contre le harcèlement de rue, une grosse campagne d'affichage, un soutien aux associations très fort. On a vu des entreprises comme Bell, c'est un client avec qui on travaille beaucoup, qui a complètement assumé une politique d'entreprise très concrète en termes de prise de responsabilité. Donc, ils ont fait avec la vache qui rit un rire un don, ils ont fait avec Babybel beaucoup d'éducation nutritionnelle, notamment sur l'équilibre des repas dans les écoles. Voilà, on va retrouver tout un tas d'actions et d'éléments dans les écoles, dans la rue, dans les magasins, dans quelque chose qui se rapproche vraiment du consommateur. Donc on n'est plus et on est loin des arbres en Amazonie, ou en tout cas des promesses un petit peu lointaines du consommateur.
Oui, après certains le font encore, j'imagine, mais oui, je vois ce que tu veux dire sur l'engagement et presque une forme d'activisme, en tout cas être dans le quotidien et aux côtés des consommateurs, au-delà de leur acte de consommation.
Absolument.
Et est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois d'aller un peu trop loin, de sortir de ces plates-bandes, de sortir de ces sujets d'expression de marque et d'être accusé potentiellement, comme on a pu le voir pendant tout ce qui était période de soulèvement sur Black Lives Matter, d'être accusé d'appropriation, ou bien de greenwashing, ou bien de femwashing, etc.
Si, c'est pour ça que le marketing réaliste reste un objectif, ou une tendance, ou quelque chose qui montre que certaines marques y arrivent. Après, ça, il y a beaucoup de marques qui ne s'inscrivent absolument pas là-dedans, ou pas suffisamment encore, ou qui vont prendre du temps. Mais si on reprend la notion de réalisme, c'est, de toute façon, il faut partir du vrai. Il faut quelque chose, il faut partir de quelque chose qui appartient, à l'entreprise. Quelque chose qui soit cohérent avec son, avec ses actions passées aussi. Là, on a vu à quel point tout le monde avait condamné Gillette, effectivement, dans leur campagne contre la masculinité excessive. Enfin, on voit que ils ont fait, eux, la communication pendant trop d'années pour pouvoir, d'un coup, d'un seul, se réinventer, justement, là-dessus. Donc, il y a une période de calage. En fait, ce qui est drôle, enfin, soit on perçoit comme des êtres les marques qui font parfois mal les choses, hein, c'est ce qui peut arriver. Tout le monde n'est pas de bonne intention, mais c'est souvent ça appartient plus à une introspection maladroite que à l'idée de mal faire. Parce que je pense que, enfin, en tout cas, tous les clients avec qui on travaille sont plutôt à savoir et à se réinterroger sur. Ben c'est quoi finalement leur passé, quelle était leur action. S'ils existent, c'est forcément qu'à un moment ils ont eu et ils ont répondu à un besoin, à quelque chose, et ils sont plus à s'imaginer, à se retrouver, à se réexplorer et en fait à trouver quel est le vrai dans leur passé qui puisse légitimer certaines actions du futur. Et je pense qu'ils sont tous dans la recherche de cette adéquation entre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ont toujours été. Alors après, il y a des ratés, c'est maladroit. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a une notion qui intervient pas mal en ce moment, que j'ai entendu plusieurs fois, mais qui je trouve a tout son sens. Là, c'est l'idée que le marketing évolue de plus en plus vers une fonction de journalisme. Et c'est vrai que dans ce journalisme, il y a cette quête un petit peu de l'information, du vrai, du factuel. Et c'est comme ça que je vois en tout cas le marketing avec qui on travaille. Ils sont dans la recherche. De retrouver des éléments, de refaire un peu l'histoire pour savoir justement ce sur quoi la marque est vraiment légitime, quels sont ces éléments d'action concrètes sur lesquels la marque peut se positionner légitimement. Et comme dans tout journalisme, parfois c'est mal fait et parfois on se trompe et parfois on relate de faits qui ont été un peu fictifs ou pas forcément fondés, et c'est ce qui peut effectivement se passer certaines fois.
Oui, alors ça c'est vraiment rigolo parce que c'est... Enfin rigolo, je ne sais pas. Mais c'est un peu un sujet que je creuse depuis quelques temps. Il y a beaucoup de journalistes qui sont passés par le podcast. Enfin beaucoup, quelques-unes et quelques-uns. Parce que j'ai aussi cette sensation qu'aujourd'hui, à travers le content marketing, on se rapproche d'une fonction journalistique et médiatique. Mais malheureusement, avec tous les droits, mais sans les devoirs. Sans la notion de déontologie, de charte éthique et de responsabilité. Mais ça, c'est un gros sujet qu'on pourra peut-être aborder si on a le temps. Mais pour revenir au sujet du marketing réaliste, par rapport à toutes ces marques qui ont réussi à prendre le tournant, qui ont déjà opéré ce changement, cette évolution dans leur discours, j'imagine qu'au sein même de la fonction marketing en interne, il y a aussi beaucoup de changements. Qu'est-ce que ça implique ? Quel est le bilan déjà pour ces marques et qu'est-ce que ça implique en termes de mutation pour elles ?
Alors, je ne peux pas m'empêcher de citer des chiffres, hein, parce que c'est des formations professionnelles, je suis désolé.
C'est pas grave.
ce qu'on voit dans nos bases de données, par exemple, c'est que donc on analyse des marques sur toutes les catégories depuis des années. Et on a des bases de données qui ont parfois 20 ans. On pose systématiquement les mêmes questions pour traduire, nous, la force d'une marque, ce qu'on appelle la part de désir, la désirabilité d'une marque. On la mesure avec deux indicateurs. Un indicateur qui est assez rationnel, qui est sur la performance, ce qu'on attend en fait d'un produit pour répondre à des besoins. Et on demande au consommateur d'évaluer chaque marque de 1 à 10 sur ce critère-là. On a un autre critère qui est la proximité émotionnelle, à quel point ils se sentent proches d'une marque. Si on regarde la base de données de ces 10 dernières années, on voit que les marques considérées, donc les marques qu'on pourrait imaginer acheter, en fait, ont considérablement augmenté leur proximité émotionnelle.
D'accord.
Alors qu'avant, et c'est des chiffres, c'est concret, c'est de l'ordre de 7,5 sur 10. Toutes les marques considérées à l'époque étaient à peu près de 7,5-8 sur 10 sur la dimension rationnelle. Ah oui, moi, une marque que je considère qu'elle est très... Elle répond à mes besoins, fonctionnellement, elle répond à mes bénéfices.
Ça fait le job.
Voilà. Sur la partie proximité émotionnelle, bon, on était à une moyenne de 6,5. Ça veut dire que c'est... Oui, il y a des marques, je les achète parce qu'elles sont émotionnelles, mais pas forcément toutes, c'est pas une condition nécessaire. Aujourd'hui, on a les deux dimensions au même niveau, à 7,5-8, et ça n'a cessé d'augmenter en fait progressivement d'année en année. Depuis 10 ans, ça s'est accéléré. Et aujourd'hui, une marque considérée, elle doit être à la fois répondre à des besoins rationnels, mais avoir une proximité émotionnelle avec les consos. Donc ça montre à quel point aujourd'hui, les marques sont et doivent être sur ce registre de s'inscrire dans un quotidien, être plus proche émotionnellement aussi des marques. Donc ce que ça implique, et pour gagner cette proximité émotionnelle, il y a plusieurs choses. Alors bon, il y a tout ce que fait bien le marketing, donc créer des valeurs, créer aussi un bénéfice perçu qui est réel, mais au-delà de ça, il y a des choses qui sont plus liées à l'immédiateté. C'est-à-dire qu'on va être moins dans la promesse projetée, future, mais on va être plus dans un bénéfice immédiat. Donc le bénéfice d'utilisation du produit, mais pas que. Ça peut être aussi dans tout ce que la marque entreprend par ailleurs, en termes de réduction des déchets, en termes d'éducation, en termes de sécurité, en termes de... Enfin, il suffit de prendre tous les ministères politiques un par un, puis voir si la marque peut agir là-dedans. Mais dans tous ces domaines, en fait, il y a une notion d'immédiateté. Ça veut dire qu'elle fait déjà des efforts sur l'emballage. Elle fait déjà une éducation, et c'est plus de la promesse projetée comme on avait par le passé. Et ça, c'est une vraie conséquence, on va dire, de ce marketing réaliste. Le côté immédiat de ce qui est dit et fait par la marque. Il y a aussi dans l'immédiateté, enfin, je fais une petite digression, mais c'est un sujet, il y en a beaucoup qui en parlent, c'est le rôle un peu politique, le relais politique que prennent les entreprises ou la marque par rapport à des actions publiques ou des gouvernements ou une action politique. Et on voit que dès qu'il s'agit de politique, dans les votes, et c'est pour ça qu'on a une montée de l'abstention, notamment en France, on est un peu dans ce côté trop long dans le temps, en fait, du bénéfice. On va voter, mais on va donner un mandat pendant 5 ans, et puis parfois, ben, ça va prendre trop de temps, et puis les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Et c'est pour ça qu'on voit parfois les choses se référer plus à un achat concret au quotidien, qui est plus immédiat. On sait qu'en allant faire mes courses, en achetant tel produit, j'aurai... On parle beaucoup du vote en consommation, mais c'est un peu ça, cette idée que je vais avoir une conséquence immédiate de mon acte dans ce que ça va vouloir signifier pour la société. Donc il y a ce côté immédiateté. Bon, il y a le côté vérité. Je pense que tout le monde est passé au rayon X du bashing en ce moment, et qu'on ne peut plus se permettre aucune contre-vérité ou vérité un peu modifiée. Donc il y a un vrai attachement à la vérité. Quelque chose qu'on voit assez comme conséquence aussi de ce marketing réaliste, c'est la cohérence. On a eu beaucoup, en fonction des pays dans lesquels on intervenait, ou du contexte un peu politique ou économique, des marques s'approprier des valeurs qui n'étaient pas les leurs. Et ça, aujourd'hui aussi, c'est condamné. Une des conséquences du marketing réaliste, c'est d'être vraiment assez droit dans ses bottes et cohérent, c'est-à-dire de plus se réinventer avec des raisons d'être tous les 4 matins. Enfin, c'est c'est d'être ancré dans le temps avec vraiment une notion de cohérence. Voilà.
Oui, pour créer de la légitimité, j'imagine, de la confiance. Est-ce que tu as des exemples de marques en tête, sans vouloir balancer, qui ont fait cette appropriation de valeurs qui ne leur correspondaient pas forcément ?
Non, c'est pas pour balancer, mais je pense que les marques avec qui on travaille sont aujourd'hui dans une problématique de revenir à de la cohérence quand elles font le constat qu'elles se sont peut-être un peu dispersées ou un peu trop inventées différemment, ou elles se sont racontées différemment d'un pays à l'autre. Et aujourd'hui, elle voit les limites de ça. Elle voit qu'il y a une forme de porosité aussi d'un pays à un autre. Et que quand on voyage et qu'on voit une marque racontée ou vue différemment, c'est quand même... ça fragilise vraiment le noyau et les valeurs que la marque veut défendre. Donc oui, on est dans une forme de mea culpa sur certaines marques qui ont eu un peu des positionnements différents. Mais non, ce serait difficile d'en citer parce que... je pense qu'il y a un regret de ça et un retour en arrière là-dessus. Sûr. C'est plutôt ce que je vois dans cette forme de...
Et tu parles d'un mea culpa de la fonction marketing, parce que c'est vrai que finalement, elle est peut-être un petit peu diabolisée ces derniers temps. Et donc, elle se refait une santé et elle se rachète un peu en redevenant plus réaliste, plus pragmatique et plus proche du consommateur lui-même plutôt que du produit. Parce que ce que tu dis, ça me fait un peu penser en fait, finalement à un shift un peu plus organisationnel et interne. Pour être passé par L'Oréal, par exemple, pour ne citer que cette entreprise-là, je me souviens que L'Oréal, c'était vraiment considéré comme l'entreprise qui était marketing-centric et un peu product-centric, donc vraiment très centrée sur sa fonction marketing qui portait l'ensemble de la croissance économique, du développement et qui portait finalement tout ce qui était lancement de nouveaux produits, création. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les boîtes qui s'en sortent mieux sont celles qui sont et encore une fois, c'est un mot qui est quand même assez vieux, on l'utilise depuis longtemps, donc je n'invente rien non plus, mais qui sont réellement customer-centric, qui ont mis leur fonction en interne au service de la compréhension des utilisateurs et des consommateurs.
Ouais. Absolument. Non, mais c'est vrai que dans cette notion de réalisme, il y a une notion de mea culpa. Il y a eu une guerre de l'attention il y a 20 ans. Et quand on parle de guerre, enfin, c'est pas anodin. C'est qu'il y avait vraiment cette, parfois avec peu de valeur, ou en tout cas, il fallait absolument s'imposer au regard des consommateurs. Mmh. Aujourd'hui, il y a une forme de rachat de cette prise de position et une ouverture au monde. Et surtout, peut-être le constat. Contrairement au sort qu'elles ont voué les marques il y a 20 ans, que les marques peuvent contribuer, au contraire, à l'ordre social, au progrès, et que le marketing, du coup, a cette opportunité, en fait, de participer à ça. Donc, c'est pas juste un rachat personnel pour se racheter une conscience, mais c'est aussi, je pense, la conscientisation d'une forme d'impact positif qu'on peut avoir sur le monde, soit en relais d'une forme d'action politique. Et même si ça appartient à un rachat personnel, ça contribue fortement dans la réalité à changer les choses. Je pense que c'est ce que le marketing est en train de réaliser. D'ailleurs, il serait peut-être même temps de changer de nom et de plus parler de marketing.
Aha. Est-ce que tu as une idée de concept ou pas?
Alors, il y a eu... non, mais il y a eu plusieurs... Il y a eu plusieurs notions que j'ai vues. Là, on travaille pas mal avec la Sorbonne et Géraldine Michel, notamment, qui a écrit un super livre qui s'appelle Au cœur des marques et qui elle parle de branding, notamment. C'est que on n'est plus sur le marketing tel qu'on le définissait à l'époque, mais le branding. Mais elle le raconterait mieux que moi, peut-être lors d'un prochain podcast, si tu veux l'interroger.
Je prends note.
Mais cette idée de branding qui est que la marque, en fait, c'est une proposition de valeur, en fait, qu'on donne sur un marché, qu'on met à disposition des consommateurs qui s'approprient et co-créent avec eux. Donc, c'est plus une mise sur le marché, c'est carrément une mise, une mise à disposition des valeurs d'une marque. Et c'est assez un concept qui est assez intéressant. Non, je n'ai pas d'autres mots. C'est d'ailleurs pour ça que j'en suis arrivé à cette notion de marketing réaliste, à défaut de trouver une.
Non, mais c'est très parlant, je trouve. Et puis, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de nous partager, de cette notion de dire que finalement, les entreprises s'engagent auprès de leurs consommateurs, j'imagine que ça change beaucoup la manière d'appréhender et de comprendre cette audience cible qu'on a et que ça force, pour revenir à ton métier initial, aux études, à voir les consommateurs plus forcément comme des segments ou des individus avec un certain nombre de particularités et les regarder sous un autre angle.
Oui, alors absolument. Alors il y a c'est vrai que tout ce qu'on vient de se dire là a des implications assez concrètes et dans les outils, notamment du marketing. Et les études que nous on propose ont beaucoup évolué. Alors je prends un détail. Il y a plein de choses qui expliquent ça, mais un détail par exemple, c'est que on avait tendance, quand on regardait la performance d'une marque, de la mettre dans un marché, dans une catégorie, mais très marketing. Et de l'évaluer avec des items très marketing. Voilà. Est une marque dynamique, est une marque créative, est une marque, des choses avec lesquelles les consommateurs ne s'exprimeraient absolument jamais. et dans un rayon absolument fictif qui correspond à des nomenclatures marketing shopper. Et ça a complètement évolué. Aujourd'hui, par exemple, on parle de plus en plus d'un moment et pas de la consommation d'une catégorie. Donc, je prends l'exemple de l'alcool, par exemple. On a arrêté de dire à un consommateur, est-ce que tu peux me dire quelle est l'image de Chivas par rapport à Jameson, par rapport à Jack Daniels? quand tu consommes du whisky. Non, on leur dit la dernière fois que tu as consommé de l'alcool, dans quel contexte c'était, dans quel est-ce que c'était festif, est-ce que c'était pour un anniversaire, est-ce que c'était voilà, et on lui laisse choisir tout type de consommation, et parfois même du sans alcool, parfois même d'autres aliments, et l'idée c'est que le consommateur, et on part d'un moment, et que le consommateur, quel qu'il soit, nous raconte tout ce qu'il aurait pu consommer, quelle perception en fait il a des marques qu'il avait à sa disposition.
Ouais, et puis au final, quand tu dis potentiellement des boissons non alcoolisées ou des aliments, c'est vraiment pour finalement comprendre quels sont vos concurrents sur un moment et une attente du consommateur en termes de de rewarding, de gratification.
Exactement.
Et du coup, potentiellement, finalement, les concurrents, c'est pas forcément les autres alcools, mais ça pourrait être complètement autre chose qui remplit la même fonction utilitaire ou émotionnelle ou psychologique.
Tout à fait. Tout à fait. Dans le choix du produit, du bénéfice, de ce que le consommateur ou le citoyen recherche à un moment donné, et on laisse tout ça ouvert. Et même dans la perception qu'on va mesurer, dans ce qu'on lui demande, on avait avant pour habitude, et on le fait quand même toujours, mais de poser des items fermés. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que cette marque est dynamique, créative, moderne, machin? Aujourd'hui, on a changé nos outils et on pose la question, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand, à ce moment-là, vous pensez à telle marque? Ah ben, elle m'apporte du réconfort, ah ben, c'est super, parce que comme ça, je peux prendre ça avec ça, et puis voilà. Donc, on est dans une forme de... Alors, ça peut être... lié à une communication, ça peut être des couleurs, un goût, un bénéfice. Enfin, le consommateur décide de ce dont il veut nous parler, et c'est ça la richesse en fait pour les marques aujourd'hui. Et c'est en ça que ça s'inscrit pleinement dans le marketing réalisme, c'est qu'on se met dans une réalité du consommateur, avec ses mots à lui, ses préoccupations à lui, dans un contexte qui lui appartient, et que la marque doit essayer aujourd'hui de comprendre, de décoder. Plutôt que de changer comme elle a eu l'ambition de faire par le passé.
Voilà. Oui, je me permets une petite parenthèse parce que cette notion de produits concurrents, etc., ça me fait penser au Jobs to be Done de Clay Christensen, je ne sais pas si je dis pas de bêtises, c'est un professeur américain qui avait théorisé ça. Je crois qu'il était enseignant à Harvard dans le cadre notamment d'un travail pour McDonald's sur le milkshake de McDonald's et qu'il avait fait ce travail-là. Donc très intéressant, si vous voulez creuser le sujet, n'hésitez pas à aller voir ça sur YouTube. Et ça m'amène à peut-être une dernière question. Vous êtes passé, de ce que j'entends, d'un système de mesure assez palpable, tangible, avec des questions fermées sur le potentiel de désirabilité, d'impact, etc., des marques, à un système de questions ouvertes. Et évidemment, ça pose le problème éternel du marketing inbound et qualitatif, qui est celui de la mesure des résultats, de l'impact, des effets. Alors, selon toi, comment est-ce que finalement cette notion de tracking, de mesure, de reporting est impacté par le marketing réaliste
Alors, on a eu beaucoup de chance ces dernières années parce qu'on a beaucoup parlé du big data et on a surtout beaucoup développé d'algorithmes, d'outils qui permettent de structurer des infos déstructurées, des données déstructurées. Et ça, c'est ce qu'on a adopté comme technique et ce qui nous permet de justement structurer toutes ces questions ouvertes et de le faire bien dans le temps et de voir les évolutions que ça pouvait avoir. Donc, par exemple, on va capter... dès qu'on analyse la performance d'une marque, on va capter tout ce qui se dit sur un réseau, sur les réseaux sociaux. Donc, on va aspirer toute cette donnée, ces images, ces textes, ces mots, et on va avoir des algorithmes nous permettant, une intelligence artificielle nous permettant de structurer ça. Et finalement, on transforme ça en pourcentage. Et le marketing s'y retrouve puisqu'il a quand même des données assez simples qu'on peut parfois même oublier, interpréter comme des items fermés parce qu'on a des pourcentages, des évolutions significatives d'une période à une autre. C'est juste la source en fait et le questionnement qui est très différent. Mais aujourd'hui, on a la possibilité justement de structurer tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est très différent dans l'approche, dans la fonction aussi, parce que les résultats qu'on donne ne valide pas forcément, bon, il y a toujours une partie validation d'un investissement, d'une action, mais plus que de valider, ils sont là aussi pour inspirer, insuffler, dire au marketing, bah, peut-être il faut faire différemment ou faire d'autres actions. Ou... Voilà, c'est vraiment une source d'information plus que de validation, en fait. Et on revient à cette notion de journalisme.
Voilà. Voilà. Qui est assez passionnante et qui finalement amorce un futur des stratégies marketing ou un nouveau mot qui sera inventé bientôt, branding, qui s'annonce assez finalement bah, assez chouette en fait. J'ai l'impression que c'est assez optimiste cette vision-là du marketing et de son renouveau.
Oui, je suis persuadé. Je pense qu'on est, ça revalorise la fonction. Il y a beaucoup aussi de créativité, d'intuition, ça ouvre un peu les chakras, tout est un peu possible dans la façon d'imaginer l'action d'une marque, par exemple. Mm. En tout cas, je trouve ça beaucoup plus riche que d'appliquer une recette magique, comme on avait par le passé dans le marketing, où il fallait mettre tant sur tel média, il fallait créer telle valeur, il fallait créer tel code. Mm. Là, aujourd'hui, on est sur quelque chose, je trouve, d'assez infini en termes de créativité. Ce qui fait du bien, parce que on a pu croire très récemment, dans les années d'avant, qu'on allait avoir des algorithmes qui allaient encore plus nous enfermer dans des prises de décision ou dans un système de validation. Et aujourd'hui, on arrive à retourner un peu la chose en créant de l'intuition plutôt qu'en enfermant dans la prescription, en fait. Donc voilà, c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais là, on le vit quand même tous les jours. C'est l'intelligence artificielle, tous ces algorithmes, mm-hmm, permettent plutôt de libérer la créativité que d'enfermer dans des prises de décision parfois un peu normées ou en tout cas trop prescriptives.
Bah, je suis ravie que tu aies cette vision et merci de nous l'avoir partagée. C'était vraiment extrêmement intéressant, Arnaud.
Merci à toi pour cette opportunité. Puis
avec grand plaisir. Mmh. Au plaisir. Salut Arnaud.
Très bien. Merci Noémie. Au revoir.
Alors, est-ce que cet épisode vous a inspiré ? Je trouve ultra pertinente la vision d'Arnaud, notamment en ce qui concerne la nécessité pour les marques de repenser aujourd'hui leur prise de parole autour de la réalité de leurs produits, mais aussi de celle de leurs consommateurs, plutôt que de rester dans des tours d'ivoire complètement déconnectés des nouveaux usages d'aujourd'hui. Le tournant du marketing réaliste a déjà été pris par de nombreuses entreprises, et je vous invite à vous poser la question pour votre propre marque. Connaissez-vous et maîtrisez-vous réellement la valeur fonctionnelle et émotionnelle de vos produits ? Je vous laisse méditer là-dessus, et je vous retrouve très vite dans The Storyline.